le Festival d'Avignon en direct avec Osmose Radio.
Osmose Radio ?
Osmose !
Osmose,
la web radio du off.
C'est génial, mais c'est tellement fatigant que je me dis je n'y reviendrai plus. Et puis finalement, ça manque, c'est une histoire d'amour en fait avec le théâtre, avec tous ces affiches, tous ces comédiens, tous ces metteurs en scène.
En direct du Novotel, où on nous reçoit comme chaque année avec bienveillance, vous êtes dans les oufs du F, les oufs du off, voilà, sur Osmose, et j'ai le plaisir de recevoir maintenant Loïc Fieffé, metteur en scène et grand Manitou d'une belle machine qui se joue au Collège de la Salle avec un compositeur. Ça existe encore, mesdames, messieurs, il n'y a pas que des musiques synthétiques, encore que des gens qui prennent leurs plumes, et quelles plumes, on verra. Il s'appelle Lionel Losada et on va parler des femmes savantes. Oui, oui, un certain Jean-Baptiste Poquelin, un jeune auteur qui vient faire un tour au Festival d'Avignon avec une version, je veux dire, c'est presque un retour aux sources. On est dans la Commedia dell'Art, il y a des masques, il y a des chutes, il y a des cascades, il y a un décor sur des tréteaux apparents, comme on jouait dans les places de village, et un décor unique avec une porte, avec des éléments de ce décor qui se transforment en siège. C'est un univers, on est presque dans ce qui était la jeunesse du théâtre. Messieurs, bonjour d'abord.
Bonjour Jean-Pierre.
Qu'est-ce que vous pensez de cette vision?
Ah ben, déjà, merci beaucoup. Très belle vision de notre scénographie. Merci.
Exactement, oui, on a travaillé la scénographie par rapport à la structure du tréteau et des masques de la Commedia, et on a décidé de revisiter ça pour en faire de cette pièce populaire, une pièce à la fois populaire et bourgeoise, comme l'écriture des précieuses ridicules, en travaillant bien sûr sur ces savantes. Et donc la structure est devenue massive avec des bibliothèques grandes pour montrer une espèce de tour d'ivoire en fait, où l'enfermement des personnages est très présent dans leurs ailes de communication tronquées, coupées du monde. Donc ce côté massif enfermant devait être représenté, et pourquoi pas utiliser les tréteaux qui sont d'actualité, dans l'actualité de Molière de son époque.
Et ça fonctionne très très bien parce qu'en plus on a la chance d'être donc au Collège de la Salle, dans une salle d'esprit baroque, donc c'est encore le décorum naturel amène encore un peu plus, on se croirait presque à la cour de Louis XIV à Versailles, à la création de cette pièce. Alors il y a beaucoup de monde sur scène, il y a 10 comédiens ouais, qui sont des musiciens, des chanteurs, des cascadeurs, encore une fois. C'est un travail d'une jeune compagnie qui s'appelle les Croqueurs. Déjà un beau nom, croqueur de notes, croqueur de son, croqueur de
planches de théâtre.
Croqueur de théâtre. Cette aventure, elle vient d'où et comment est-elle née?
Mais elle est née en fait à la rencontre avec Lionel sur un autre projet pour enfants qu'on signe encore d'ailleurs, qui se joue au Cabestan en ce moment, la magie du voyage Sidonie. La fée Sidonie qui est assez connue sur Avignon. Donc moi en tant que comédien puis metteur en scène dans cette histoire, Lionel toujours à la composition musicale, on s'est retrouvé à un moment à dire ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait si on veut vraiment monter une véritable troupe. Donc on se retrouve avec nos 10 comédiens ici à Avignon qui partagent déjà des projets différents. On se retrouve avec notre scénographe qui est venu avec nous, notre costumière, notre chargée de diff, notre attachée de presse. On a décidé de réinvestir Avignon avec cette composition de troupe véritable, avec ce spectacle d'1h45 et avec une vraie scénographie théâtrale. Voilà.
Musique originale.
Tout
on commence, donc ça c'est Loïc, parce que là on écoutait le metteur en scène, le patron, on a vu tout de suite, hein, c'est lui le patron. Je déforme mes enfants et il ne faut surtout pas y toucher, attention à vous. Et cette musique, elle est à la fois moderne, parce qu'on joue d'un clavecin un peu amélioré, mais dans l'esprit, c'est un musicien, comment il va... Il va faire que ça soit pas du copier-coller à la manière d'eux, il va amener sa touche. Parce qu'il faut les faire chanter aussi, ces gens-là.
Ah bah bien sûr,
ils chantent beaucoup, ils chantent beaucoup, oui. Ils chantent bien même.
Ah bah oui, ils chantent très bien, ils ont beaucoup travaillé. Bah en fait, la composition musicale, en fait, Les Femmes Savantes est une pièce qui n'a pas de ballet écrit, comme certaines pièces de Molière, etc. Et Loïc est très sensible.
Lui, il n'était pas libre ce jour-là, quoi, en fait.
Et ben, en fait, ils étaient un petit peu en froid à ce moment-là.
Déjà.
Donc voilà. Donc en fait, quand Loïc m'a dit, moi je veux de la musique, parce qu'effectivement, ça rajoute de l'éclat. Le sonnet de Trissotin, on a le choix de le faire juste déclamer, mais là, on a pris le parti de le faire chanter, et ça amène une touche absolument folle et éclatante au spectacle. Donc en fait, moi, j'ai ressorti mes vieux cours d'écriture du conservatoire pour essayer de copier un petit peu les règles en fait, d'écriture entre entre Lully et Rameau, vraiment à cette époque-là. Je suis parti avec ces règles-là, et puis après, j'ai laissé un peu parler la folie et le texte. Et puis voilà, et puis en plus des chants, on se permet, entre le clavecin, le violon qui orne les duels,
la
flûte aussi, qui apporte une touche de velouté aussi à l'ensemble, voilà.
Bon, c'est ce qui est assez intéressant, je pense, vous êtes d'accord avec moi, c'est que dans Molière, il y a à la fois ce côté bien posé, on voit tout de suite qu'on est au 17e, et puis en même temps, il y a une modernité. Il y a des choses qui aujourd'hui, effectivement, on change certains mots, on parle d'éléments de langage, de brainstorming, etc. Et puis on est en plein dans le monde d'aujourd'hui. Ceci, encore une fois, trois siècles, quatre siècles avant le nôtre, quoi.
Et oui, bien sûr. C'est la préciosité de la communication qu'attaquait Molière à cette époque-là, dans ce savoir, demi-savoir, dans une soif de reconnaissance, en fait, qui est le vrai défaut de ces savants savantes, parce qu'il ne faut pas partir sur le principe que femme savante est une misogynie, parce que pas du tout, c'est un prétexte. Et on se retrouve avec cette actualité, toujours dans Molière, de défendre les vivants, de défendre la vie par rapport à la science, mais une science déformée, une science un peu extrême, qu'on peut voir maintenant avec d'autres visages actuellement. Bon, nous, dans la version classique, on n'est pas allé, bien sûr, mettre en avant quelque chose, mais quand on se retrouve avec certains personnages de la pièce, par exemple comme Armande, qui est la jeune sœur, la sacrifiée, mm-hmm. comme elle a annoncé, ça fait partie de ces gens, comme je le dis souvent, qui mettent la main sur le livre, mais qui ne l'ont pas lu. Ils font partie de ces personnes qui vont se donner corps et âme sans avoir toutes les clés. Et là, on se rend compte que ce n'est pas la vie, ça. Ça, c'est une science, c'est une déformation, c'est une discipline qu'on s'impose. Et ce n'est pas véritable. Et ça, Molière l'a toujours très bien écrit. Entre la force, la violence fait à l'amour, la violence fait à la vie, cette pièce-là est remarquablement écrite là-dessus.
Il y a quelque chose qui m'a agréablement surpris dans le spectacle hier, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de second rôle. Comme dans certaines comédies, il n'y a pas le rôle de valet ou même la femme de chambre, elle a quelque chose de très particulier. J'ai l'impression que le prétexte était que chaque comédien apporte ce qu'il a, son envie de jouer, et puis on est sur un pied d'égalité quand on est sur ces tréteaux à l'ancienne.
Exactement. En fait, c'est une pièce de caractère, celle-ci. Comme Lully était parti, Molière a dû redoubler d'écriture, donc ce qui fait que cette pièce est immensément riche dans son écriture. Tous les personnages sont très importants, très puissants, même du plus petit serviteur qui doit très bien parler parce que sinon il se fait chasser, et on se retrouve, j'ai dû chercher des comédiens qui pouvaient remplir ça, et surtout, après les avoir réunis, trouver l'homogénéité de tout ce groupe pour qu'à la fin, 10 comédiens, ce soit normal, ce soit obligatoire, ce soit pour le public un principe de « bah ouais, heureusement qu'on a 10 comédiens parce que ça envoie tout de suite en énergie, en puissance, en caractère ». On a vraiment essayé de travailler ça. Il y a des rôles volants, ce que fait Lionel par exemple, le notaire, deux petits serviteurs par-dessus, mais après tous les autres sont dans leur personnage, dans leur puissance, et ça donne une comédie avec des caractères extraordinaires.
Alors Lully, parlons-en puisqu'il n'était pas là, Lionel l'a remplacé, et de quelle manière? On va écouter un petit extrait musical donc de spectacle, tu nous présentes la chose?
Oui, alors le premier extrait qu'on va écouter, en fait, c'est une musique que j'ai écrite dans le style qui, en fait, qui fait penser un petit peu aussi au coup d'archer de chez Vivaldi, voilà, et en fait qui va venir orner le duel des savants où ils vont se déchirer avec leurs mots, voilà.
Alors, ce duel, parlons-en, parce qu'il a, il est aussi très, très habile, parce qu'en fait, il y a plein d'images là-dedans. Hein. On se bat en duel, mais on se bat en duel à travers la plume, en fait.
C'est ça, exactement.
Ça fait penser à certaines choses actuelles, je trouve, des gens qui se balancent comme ça. Leurs bouquins, leurs
critiques.
Finkielkraut était déjà là, ou on peut s'interroger, mais c'est ça aussi un petit peu le job hein, d'un metteur en scène, c'est d'arriver à dire bah oui, bah ça a été joué, rejoué, il y a plein de gens qui l'ont fait. Qu'est-ce que je vais, en étant encore une fois dans l'esprit, qu'est-ce que je vais pouvoir amener, quelle va être mon empreinte
Mais, de toute façon, on est parti un peu à contre-pied par rapport à l'écriture des savants, parce que les savants, c'est-à-dire que Molière avait déjà cherché dans le Tartuffe quelqu'un de puissant comme dans le Tartuffe et qui impose sa loi. Et ici, dans les précieuses ridicules, c'est le mélange excusez-moi, les femmes savantes sont le mélange de Tartuffe.
C'est le début de l'après-midi. Vous êtes des gens qui travaillent tard le soir, on le sait, on vous pardonne bien volontiers.
Ça fait déjà trois références, trois œuvres, ça fait beaucoup pour mon cerveau, mais ne vous inquiétez pas. Donc, on s'est retrouvé en fait avec des savants normalement écrits pour être parasites, pour être présent, lent, latent. C'est souvent ce qui est écrit chez Trissotin et Evadius, et nous on a décidé de les rendre éclatants, beaux, magnifiques. Ils sont dans une pédanterie totale, globale, et là, le principe de cet acte 3 était la folie, parce que c'est complètement fou ce qui se passe dans ce quotidien. C'est extraordinaire chaque jour pour elles. Donc ils se retrouvent à leur chanter des merveilles, ils se retrouvent à se battre à la plume comme si leur vie en dépendait. C'est ça qu'il fallait donner dans cette intensité, dans cette extrémité de cette savanterie en fait.
Et ce Trissotin, il est étonnant parce que déjà par son costume, par son maquillage, par plein de choses, il est complètement différencié des autres, et c'est un acteur qui a l'air de s'amuser, qui fait son côté un peu précieux, mais qui on sent que c'est un derrière, il y a aussi le bouffon là.
Oui, il est un principe de représentation, Trissotin, après tout. Donc Charlie Labourier, qui joue le rôle de Trissotin, a complètement compris la situation par rapport à ça. Il doit plaire, il ne vit qu'au travers du regard des autres. C'est cet orgueil qui est un orgueil placé un peu bizarrement, parce que c'est à la fois masculin et féminin dans cette représentation face aux femmes. Il n'est pas là pour il est là pour les séduire, mais pas pour les attraper pour lui-même. Il est là pour le faire pour son monde, pour son univers. Et donc Charlie devait trouver à l'intérieur, dans son Trissotin, il devait trouver cette accroche, ce principe de plaire tout en étant vrai, sincère. Il fallait garder la sincérité. Sinon, on partait dans un bouffon, trop bouffon, et là, qui n'était qu'une démonstration comique.
Alors, je rappelle que vous êtes dans les Oufs du Off. On est en direct du Novotel. Et on parle des Femmes Savantes qui se jouent donc à 18h45 au collège de la...
16h45.
16h45, pardon. Ça, c'est un problème de lunettes. 16h45 au collège de la Salle, avec donc Loïc Fieffé à la mise en scène, Lionel Losada à la composition et au jeu. Vous le verrez sur scène. Il s'amuse bien aussi. Et donc, les Femmes Savantes, un beau texte. Un texte vivant, un texte qui fait aussi partie des classiques, mais c'est aussi un peu, je trouve, le bon moment quand on est en Avignon là, pour quelques jours au festival, de varier les plaisirs, d'aller voir du théâtre moderne, contemporain, des créations d'auteurs, de jeunes auteurs, et puis peut-être de retourner aux sources, parce qu'il y a encore ce côté, effectivement, là, j'insiste, de saltimbanque. Et là, dans l'esprit de la façon dont la pièce est travaillée, on est vraiment dans cet esprit de saltimbanque propre à Molière et à ce qu'il a voulu apporter.
Fait.
Une troupe, une vraie troupe. Une vraie troupe, donc, qui a plein d'ambition, parce que je crois que vous essayez de vous vendre à l'export, n'est-ce pas?
Oui.
Il y a des choses qui vont se faire. Et puis, il y a aussi, ça c'est intéressant, un autre spectacle qui est déjà en route ou qui est déjà joué, qui s'appelle Les Savantes.
Qui est en création encore.
Qui
a déjà eu quelques représentations, mais qui est en affinage, quoi. Ouais. Donc oui, Les Savantes, c'est la version contemporaine des Femmes Savantes, avec là, pour nous, dans notre esprit de troupe, les mêmes comédiens dans les mêmes rôles.
Voilà.
Et on a exporté le propos pour rendre quelque chose de plus actuel, plus contemporain, dans l'univers de l'entreprise, ce que représentent ces savantes, en fait, des working girls absolues.
Voilà, les DRH et tous les pénibles qui viennent nous embêter, on en connaît.
Mais il fallait qu'elles soient émérites pour être intéressantes. Sinon, si elles restaient dans leur salon ou dans leur bureau, ça ne marchait pas. Donc elles sont reconnues. Et on avait amené ça pour le Trissotin, ce savant, c'est devenu, là, sur l'image, un politicien qui joue des éléments de langage, qui joue de la communication. Une communication opaque et prolifique. Et donc c'est cette transformation, en fait, cette absorption politique-entreprise qu'on a mis en avant dans Le Danger sur cette réécriture.
Voilà, eh bien, j'espère que ça va vous donner envie d'aller voir du théâtre, du bon, du vrai théâtre, qui dure plus que le format d'habitude, un petit peu compressé d'Avignon d'une heure, et après on vous prie de sortir rapidement de la salle parce qu'il y a un autre spectacle qui suit. C'est un peu la règle ici en Avignon, bien entendu. Les Femmes Savantes, Molière, dans toute sa splendeur, encore une fois donc au Collège de la Salle, à 16h45, avec donc 10 comédiens, comédiennes qui sont toutes, on ne va pas tous les citer bien sûr, mais ils sont magnifique. Merci d'être venu à nous.
Merci.
On va se quitter avec le petit extrait musical donc du spectacle qui va vous donner encore, j'espère, plus l'envie d'aller voir.
Donc. Ah, mettons-nous ici pour écouter à l'aise ces vers que mot à mot il est besoin.
sans cesse mon cœur tressaillir par avance. J'aime la poésie avec entêtement. Et surtout quand les vers sont tournés galamment.
Si nous parlons toujours, il ne pourra rien dire.
Son monsieur Trissotin, où chaque rire m'assomme et j'enrage de voir qu'elle estime un tel homme.
Ses écrits, ses discours, tout m'ensemble en mille. Je me trouve assez votre goût.
Ce monsieur Trissotin, dont on fait un cri, n'a pas l'honneur d'être dans votre style. C'est celui que je prends pour l'époux qu'il lui faut, et je sais mieux que vous juger de ce qu'il vaut. La contestation est ici superflue.
Qu'avez-vous répondu ?
Rien. Madame, voyez votre choix. Exposez-moi de grâce à moins d'ignominie et ne me rangez pas à l'indigne destin de me voir le rival de Monsieur Trissotin.